Tout comme pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Ça ne vaccine pas d'être soignant, dit le docteur Sachs à l'un de ses patients. Un médecin de cinéma malade des souffrances des autres. La médecine, une comédie humaine et son cortège d'émotions dont s'est bien sûr emparé le cinéma et sous toutes ses formes. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Des sujets aussi forts que la maladie, la douleur, la souffrance, la vie, la mort. Bref, l'humain dans tous ses états, un matériau vital pour le cinéma et qui mieux que lui pour en parler. Bonjour Thomas Delty.
Bonjour.
Réalisateur et aussi médecin, un diplôme qui légitime et enrichit largement vos fictions. Hippocrate, médecin de campagne ou première année. En cette période de pandémie généralisée, nous nous pencherons avec vous sur ces hommes en blanc qui peuplent le cinéma. Des yeux sans visage à Dallas Buyers Club, c'est votre belle ordonnance ce matin. Enfin, notre traitement à nous pour pallier ces jours privés des salles obscures, des conseils de livres et de DVD. Alors, ouvrons cette heure avec Benjamin, un jeune interne de 23 ans.
Vous inquiétez pas, c'est notre meilleur interne. Allez, pensez juste à faire le dos rond.
Ça va faire mal, non ?
Mais non. Enfin, si vous dites ça, effectivement, ça fera mal. Le dos rond, s'il vous plaît. Voilà.
Ah, mais il a quel âge, lui ? Il est jeune pour...
Ne vous inquiétez pas, monsieur.
Non, je vous rassure, il a tous ses diplômes, j'ai vérifié.
Attention, je vais piquer.
Non, il a pas piqué, là, monsieur. Allez, le dos rond. Il a piqué, là, c'est bon, monsieur, vous avez fait le plus dur. Ça coule pas. Enfonce plus.
Ça fait mal. C'est long.
C'est toujours un peu long. C'est presque fini, là.
Ah !
Excusez-moi. Je cherche les infirmières, Myriam et Juliette.
Oui, c'est bon.
Bonjour, je suis le nouvel interne. On m'a dit de voir avec vous.
Mais c'est pas trop le moment. On est en pleine fonction, là.
Ah oui.
Vous avez besoin d'aide ?
Non, c'est bon.
Aussi, c'est une fonction lombaire un peu difficile.
D'accord. Tu me passes du 8 ?
Ah.
C'est con, j'y suis presque.
Non, tu es pas du tout là. Tiens, laisse-moi faire. Regarde. T'enfonces un peu plus. Voilà.
Ça coule, monsieur. Hein. C'est bon. C'est bon pour moi.
Ça y est. Tu vois, une ponction lombaire, c'est pas difficile. Il faut pas hésiter à enfoncer un petit peu plus l'aiguille, il faut que t'entendes un petit craquement. D'accord ? Sinon tu fais mal au patient et c'est voué à l'échec. Il vous a fait mal, monsieur ?
Ouais, un peu, mais... Ah, ça va, là, ça.
Tu vois ?
On a mal pour lui ! Vincent Lacoste, Reda Kateb et Carole Franck, Hippocrate, votre grande entrée dans le cinéma, Thomas Delty, est largement salué, l'hôpital, ses coulisses. Un regard réaliste, affectueux, drôle... mais aussi politique sur la médecine, c'est ça l'enjeu.
Oui, bah c'est moi j'en ai pas totalement conscience au moment où je fais Hippocrate, puisque d'ailleurs j'arrive dans un monde de cinéma où c'est difficile de parler de la santé et de l'hôpital, où on a le sentiment que l'hôpital c'est un territoire pour faire du romanesque, mais du thriller, de l'histoire d'amour, mais pas pour parler de la réalité de ce que c'est que le soin, de l'hôpital, l'institution hospitalière. Et moi, je vais me battre pendant quelques temps pour essayer d'imposer ce projet et de dire, mais si, c'est quand même un lieu de fiction et en même temps de raconter des choses, et notamment la dimension politique, c'est-à-dire d'essayer de, sans asséner des vérités, mais d'essayer de faire le constat de tous les problèmes que porte l'institution hospitalière et donc ce service public, et on le voit bien dans l'actualité actuellement, difficulté que vivent les soignants.
Vous êtes un cas assez unique, Thomas Delty, de réalisateur-docteur, unique parce que deux vocations dans le même corps. La médecine a nourri votre cinéma, mais pas l'inverse.
Oui, c'est vrai que je dis souvent que quand j'étais étudiant et que je cherchais à faire du cinéma, En tant que jeune cinéaste en devenir, je disais souvent que j'étais médecin, ça m'ouvrait les portes. Mais c'est vrai que en médecine, je ne disais jamais que j'essayais de faire du cinéma, parce que là, pour le coup, ça fermait les portes. Ça donne un peu une idée de l'ouverture d'esprit du monde médical. Mais je crois que la médecine m'a beaucoup nourri, en effet, pour faire du cinéma. Mais je pense que d'avoir fait du cinéma très jeune, hein, dès mes 18 ans, m'a permis de supporter mes études de médecine, que je trouvais très dure, très violente. L'enseignement de la médecine, j'en parle un peu dans le film Première Année, est un enseignement violent, difficile, très hiérarchisé. Et je crois que le fait de me retrouver à faire du cinéma à côté a été un salut pour moi, m'a permis de supporter la dureté et des études, et évidemment la violence d'être confronté à la mort, à la maladie, à la souffrance.
Vous avez fait des remplacements aussi comme médecin de campagne. Est-ce que, peut-être la question est idiote, mais savoir parler aux patients, est-ce que ça vous a appris à parler aux acteurs ?
Je ne sais pas, c'est toujours difficile. Ce que je sais avec certitude, quasiment en tout cas pour moi, et je le constate chez les autres, c'est qu'on ne peut pas faire de direction d'acteur, diriger les comédiens, autrement qu'avec ce qu'on est soi-même. Donc obligatoirement, on dirige les acteurs en fonction de ce qu'on est dans la vie. On peut pas imiter une méthode de direction d'acteur. Moi, j'étais très impressionné par certains metteurs en scène que j'avais vus dans des making-of ou des documentaires, diriger leurs comédiens, soit de façon très autoritaire, soit en étant dans le conflit, etc. Et puis, j'aurais aimé faire comme eux, mais en fait, on peut pas, on fait avec sa personnalité. Donc le fait d'être médecin ou d'avoir fait des études de médecine, d'avoir eu ce rapport aux patients, peut-être que ça m'a influencé. Et il y a une comédienne que j'admire beaucoup, qui s'appelle Géraldine Nakache, et qui a dit un jour, mais Thomas, c'est marrant, on vient sur son plateau comme on vient en consultation, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on repart avec un diagnostic et une ordonnance. Voilà, j'ai jamais su à 100% ce que ça voulait dire. Ce qu'elle me disait clairement, c'est que j'étais, il y avait quelque chose du médecin dans ma façon de travailler. Ouais.
Le médecin et cette image donc tutélaire dans le cinéma est le premier sur votre liste. Il s'appelle Barberousse, Akira Kurosawa. Voilà la voix du grand Toshiro Mifune et Barberousse, ce médecin idéaliste luttant contre la misère et l'ignorance et dont les méthodes un peu rustres à ses yeux vont peu à peu séduire le jeune étudiant en médecine. Pourquoi c'est un exemple absolu pour vous ce film-là ?
C'est un film que vous avez vu tôt ?
Alors je l'ai vu assez tôt, mais tard finalement dans une cinéphilie, parce que j'ai dû le voir, j'avais 25-30 ans quand même. Oui. Mais bon, après, c'est des films qu'on voit rarement très jeunes, hein, les films de Kurosawa. En tout cas, celui-ci, qui doit durer pas loin de 3 heures, je crois.
Il dure 3 heures. D'ailleurs, il y a un entracte, c'est très drôle.
Tout à fait. Alors, ce film, il me marque parce que, évidemment, il parle de médecine. Il parle de deux médecines qui s'affrontent. Oui, la médecine de la ville, la médecine de la campagne, la médecine des riches, la médecine des pauvres. Ouais. Et en même temps, donc il ne fait pas que parler de médecine, il est finalement profondément politique et social. C'est de raconter aussi un Japon au début du 19e siècle, de vitesse, de monde qui s'oppose. Donc ça, obligatoirement, ce sont des thématiques qui moi me nourrissent beaucoup dans mon travail, au-delà, parce que j'espère en tout cas que mes films qui prennent leur terreau dans l'hôpital ou dans la médecine ou dans la santé ne parlent pas que de ça et parlent aussi de choses un peu plus universelles. Et je crois que c'est le cas de Barberousse profondément sur l'enseignement aussi.
Oui, c'est un vrai récit d'apprentissage. C'est un chef-d'œuvre, c'est un film absolument merveilleux. Et à un moment, Barberousse dit aux jeunes chirurgiens, dans la vie, rien n'est plus sublime que les derniers instants. Regarde-le bien, ce vieil homme qui va mourir. Je me permets cette question. Vous avez vu des gens mourir, Thomas Nitti ?
Oui, alors c'est marrant parce que, évidemment, je ne me souvenais pas de cette phrase en particulier. Certainement qu'elle a dû me marquer. En même temps, je l'ai déjà oubliée. Mais c'est drôle parce que récemment, j'écrivais un texte sur un médecin que j'avais connu pendant mes études. Et c'est un médecin qui n'était pas considéré comme un grand médecin à l'hôpital. Allons savoir pourquoi. Il faisait son petit bonhomme de chemin tranquillement. Et avec lui, j'ai appris ça. Exactement ce qu'il y a dans Barberousse. C'est-à-dire, c'était un médecin qui avait cette qualité, cette capacité à l'accompagnement des gens en fin de vie. Et il m'a appris, parce que j'étais dans un service où il y avait beaucoup, de gériatrie, donc beaucoup de gens qu'il fallait accompagner vers la mort. On savait qu'il fallait pas s'acharner. Et il savait faire ça incroyablement bien. Ça m'a beaucoup nourri, beaucoup marqué. Et j'ai énormément de respect pour les médecins qui s'occupent des gens, en effet, des derniers instants, comme dit Barberousse. Mais j'avais oublié qu'il y avait ça dans Barberousse.
Et vous l'avez vécu comme quelque chose de sublime aussi?
En tout cas, je l'ai vécu comme quelque chose d'aussi important que faisant partie intégrante.
Que guérir et soigner.
Exactement, oui, tout aussi essentiel. Et absolument absent de l'enseignement, des études, etc. Et même pour aller au-delà, j'avais un chef de service d'anatomopathologie, donc qui font des dissections, des autopsies, plus précisément, qui disait, cette phrase, pareil, j'ai jamais réussi à comprendre, et pourtant elle m'a marqué, il disait, on lui demandait, mais pourquoi vous voulez absolument faire des autopsies? Il voulait tout le temps faire des autopsies des gens qui mouraient, notamment même des personnes âgées, et il me répondait, mais parce que tout le monde a le droit de savoir de quoi il est mort. C'est quand même fascinant comme phrase. Donc il y a vraiment, chez les médecins, il y a quand même une dimension aussi, malgré parfois tout mon aspect critique que je peux avoir vis-à-vis d'eux, il y a aussi une dimension philosophique qui est puissante.
Lui est généraliste à la campagne, c'est Bruno Saxe, Albert Dupontel dans La maladie de Saxe, adapté du livre de Martin Winkler par Michel Deville, extrait.
En application de l'article L162.3, L162.4, L162.5 du Code de la Santé, je sous-signais Bruno Saxe, docteur en médecine, certifique Madame Pauline Casser, profession.
Rédactrice.
C'est un beau métier, une actrice.
C'est un emploi administratif, rien de très reluisant.
Tout de même, c'est beau, ça, rédactrice. Madame Pauline Casser, demeurant.
J'ai déjà donné tous les renseignements. Je suis désolée, je ne peux pas m'empêcher de vous détester parce que vous allez m'avorter.
C'est normal.
Et aussi parce que vous trouvez normal qu'on vous déteste. Je vous applique à rassurer, à comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre, moi.
Vous êtes très en colère. Ça m'arrive aussi d'être en colère.
Ça m'étonnerait.
Ça m'étonnerait.
Bon. Qu'est-ce qui vous met en colère, vous?
Tout et rien. Ça dépend de la saison. Ce que j'ai fait dans la journée. Ce que je dois faire avant de rentrer chez moi. Du soir qui vient. Garde au cinéma. Du lendemain. Repos au travail. L'état de mon dos, de mes pieds.
Je vois.
J'atteste que Mme Casser a bénéficié à l'entretien particulier prévu à l'article L162.3, L162.4.
Je signe.
Donc Saxe se plonge dans la souffrance des autres qu'il exorcise en écrivant, Thomas Lilti. C'est de l'empathie extrême. Est-ce que l'empathie peut être une forme de maladie?
Voilà, la question, elle est complexe. Oui, je pense, d'une certaine manière. En tout cas, une maladie, je sais pas, mais dans la pratique médicale, l'empathie, elle est indispensable. C'est-à-dire que, en tout cas, l'idée du médecin qui doit se blinder vis-à-vis des sentiments, de ce qu'il ressent, c'est bon. Je crois que c'est vraiment une stupidité, évidemment, que les médecins, les bons médecins, sont dans l'empathie, partagent les souffrances de leurs malades. Mais après, bon, il faut être capable aussi de pas s'oublier dans la pratique médicale et de pas plonger avec ses patients.
Il y a quand même une lumière dans votre métier, un truc fascinant, c'est le diagnostic, quoi. Ça, c'est extraordinaire, c'est résoudre un mystère, et ça revient quotidiennement.
Oui, et j'ai l'impression, alors quand on revient à la maladie de Saxe, ou à cette pratique de la médecine, qui est une médecine simple, la médecine générale notamment,
comme dans Médecins de campagne,
comme dans Médecins de campagne, c'est ce que j'aime dans cette pratique-là, c'est-à-dire que c'est une pratique de l'écoute essentiellement. Le fameux diagnostic, c'est pas un diagnostic de savant parce qu'on a dosé telle chose et qu'on a pensé à telle maladie rare. 99% des gens ont des maladies de tous les jours, des maladies simples.
Ouais.
Et il faut les écouter, il faut prendre le temps de l'écoute. Et ce qui est le grand problème de la médecine aujourd'hui, et de cette médecine-là notamment, c'est qu'on n'a plus le temps de la faire. Même à l'hôpital, c'est ce que disent les soignants, on n'a plus le temps. Et le temps, c'est ce qui permet de faire le diagnostic.
Puis on se dit qu'un médecin dans son cabinet, c'est un formidable scénariste en puissance, parce que le nombre d'histoires qu'il entend, de destinées, de vie individuelle, ça peut inspirer 250 films.
Enfin, oui, j'imagine. En tout cas, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été, au-delà même de la pratique médicale, mais de ce qu'ont pu me raconter des patients, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de la pratique et de la consultation.
Un autre portrait de médecin très romantique, celui-là, au murmure dans la ville, Mankiewicz, 1952. Un médecin que tout le monde aimerait rencontrer, le docteur Pretorius, c'est Cary Grant, et qui accorde une place très importante à la parole pour soigner certains mots, jusqu'à la fin d'ailleurs, témoin cette scène.
Je parie que je sais ce que vous pensez. Voici l'homme de la bonne humeur, le docteur Tant Mieux. S'il essaye de me faire rire, ma parole, je l'assomme avec mon sac de glace, c'est ça?
Pas du tout.
Et je ne vous blâme pas. Un des rares plaisirs qu'il y ait à être malade est de se sentir misérable et qu'aucun docteur ne s'avise de vous dire le contraire.
Je réfléchissais. Ce n'est pas drôle de devenir vieux.
Oh, ne vous en faites pas, c'est encore moins drôle de ne pas le devenir.
Je veux mourir.
Ça vous plairait, ça, de rester toute la journée sans rien faire, allongé dans un cercueil? La nuit a été bonne?
Très bonne, docteur.
Parfait. Si cette nuit encore nous dormons bien, demain matin, on examinera la situation en chirurgie.
Docteur, c'est douloureux de mourir.
De mourir? Pas du tout. Qui vous a dit ça?
Oui, il paraît qu'on souffre beaucoup.
Ah. Est-ce que c'est quelqu'un qui est mort qui vous a dit cela?
Bien sûr que non.
Alors, vous voyez, tous ces racontars sont des bavardages idiots.
Merveilleux dialogue, hein, Mankiewicz. C'est un médecin peu orthodoxe. En gros, c'est un médecin humain, hein, Thomas Lilti, ce docteur Pretorius.
Ah oui, oui, au-delà, bah, tellement, tellement humain. Mais je ne sais pas si les gens connaissent beaucoup ce film.
Non, non. Il est...
Hein, il faut, je pense que si on aime, en tout cas, ce cinéma américain humaniste, oui. il faut voir ce
Capra,
film.
Capra.
Exactement. On est dans cette... c'est beaucoup de plaisir à regarder ce film. En plus, bon, c'est Cary Grant.
Ouais.
Immense acteur.
C'était son film préféré.
Je savais pas.
Il a toujours dit que c'était son film préféré. Et Mankiewicz a dit, je l'ai pris parce qu'il possédait l'essence du bonheur, de la bonne humeur, de la vie, une chanson joyeuse.
Oui, mais je suis pas surpris. Le film, il provoque ça. Et c'est un film que j'ai découvert assez tard. Et ça a été une très agréable surprise. Je l'ai rarement vu cité quand on parle de films sur la médecine.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est comment ce médecin que tout le monde aime, finalement, va s'attirer les jalousies d'autres, de ses confrères, quoi. Et c'est quelque chose qu'on vit tellement et que moi j'ai observé, pas à titre personnel, mais que j'ai observé, j'ai vu des jalousies entre médecins parce que certains étaient plus aimés que d'autres, tout simplement, quoi.
Quand vous avez fait vos remplacements, là, à la campagne, est-ce que par certains matins vous partiez en, pas de bonne humeur, forcément? Mais en essayant de mettre une autre armure de bonne humeur justement pour les patients que vous alliez rencontrer.
Ah ben oui, toujours. En tout cas, il y a et c'est d'ailleurs très souvent très douloureux. Ça fait partie des choses. Moi j'ai souffert de pratiquer la médecine. Si je suis arrivé, je pense au cinéma, même si le cinéma était en moi depuis toujours, c'est aussi parce que je souffrais de pratiquer la médecine, parce que justement cette fameuse armure de bonne humeur ou du moins de volonté de donner aux patients, elle est lourde à porter, cette armure. Elle est lourde et il faut la porter. Parce que moi, je pense, mais en contrepartie, le patient nous donne beaucoup. C'est-à-dire que le soin, c'est pas, et c'est souvent les mauvais médecins d'ailleurs, le soin, ce n'est pas le médecin donne quelque chose aux soignants. Au soigné. Oui. C'est le soignant donne au soigné, mais le soigné rend en retour.
Oui.
C'est un échange, le soin. Et ça, quand on l'a compris, ça va quand même beaucoup mieux. Voilà. Mais cette armure, elle est lourde. Elle est très lourde.
On redonne le titre du Mankiewicz, hein, On murmure dans la vie, parce que c'est un film rare, donc je suis sûr que nos éditeurs auront envie de le voir.
L'engagement médical peut aller très loin, comme chez cet ambulancier new-yorkais désarmé, face à la souffrance des autres, un homme qui ressent intensément la détresse d'autrui. C'est À tombeau ouvert de Martin Scorsese, Bringing Out the Dead, avec Nicolas Cage. Traité de façon crue et directe, sans cool. Les gens meurent et les hôpitaux sont pleins de malades, de blessés, soignés à peine avant de les relâcher. Au milieu, Franck, un peu comme une figure christique, c'est un peu le Christ dans ce film, Nicolas Cage.
C'est le Christ, Nicolas Cage. Moi, c'est marrant, c'est un film, je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, je l'ai pas trop aimé.
J'adore ça.
Je suis passé un peu à côté. Après, Scorsese, ça peut faire des fois, ça peut créer le rejet aussi, tellement ça va vite, c'est virtuose dans la mise en scène, etc. Il y a Nicolas Cage qui a toujours ce jeu qu'on peut détester.
À la limite,
de l'excès, du trop.
Oui.
Et je suis passé un peu à côté. Et puis quand je l'ai revu, c'est dingue comment il est, ces thématiques sur comment il est hanté par tous ces échecs, ces morts, et il n'est que ambulancier entre guillemets.
Ouais. Et justement, extrait à propos de ça.
Sauver la vie de quelqu'un, c'est comme tomber amoureux. Il n'y a pas meilleure drogue. Après, pendant des jours, des semaines, parfois, on marche dans les rues et tout ce qu'on voit est transfiguré. Une fois, des semaines durant, je n'ai pas touché terre. Tout devenait plus léger. Mes semelles jouaient des fanfares, des fleurs me tombaient des poches. On se croit devenu immortel, comme si c'était sa propre vie qu'on avait sauvée. Dieu s'est manifesté à travers vous. Pourquoi le nier? L'espace d'un moment? Pourquoi nier que l'espace d'un moment? Dieu, c'était vous. Sa tribune mérite quand tout va bien. Ça marche pas dans l'autre sens. Quand les choses tournent mal, on accuse la terre entière. C'est la trousse de survie pour un secouriste. L'ascenseur était en panne, son copain était fou. J'étais malade, le tube voulait pas entrer. Juge des enfers, c'est un rôle que personne ne veut jouer.
C'est extrêmement ressenti, ça, comme dialogue, Thomas Litty. C'est-à-dire que vous, comme interne, vous pouvez sortir d'un hôpital fier comme un paon, ou alors être terrifié parce que quelqu'un est mort.
Oui, oui, c'est, je suis encore sous le coup de l'émotion,
ouais,
même si c'était la VF, d'ailleurs, qui était bonne.
Hein, pas si mal que ça.
Qui est bien. Hein. C'est vrai que le... Moi, de mes souvenirs... j'ai fait aussi du SAMU, j'ai fait des urgences, et le souvenir que j'en ai, c'est vrai que le plus lourd, le plus compliqué, c'est de sortir de sa journée de travail en se disant on n'a peut-être pas fait le maximum, on s'est peut-être trompé, et de ruminer en fait pendant la nuit suivante et parfois les jours qui suivent sur un détail, sur quelque chose, et si on avait fait différemment,
un geste qu'on n'a pas fait,
sur un geste, et ça c'est moi j'en garde profondément une douleur qui reste de ces moments-là. Ouais.
D'ailleurs, lui, il est obsédé par cette femme qu'il n'a pas réussi à sauver. Il est obsédé par elle pendant tout le film. Et quand je dis christique, il réalise même presque un miracle. C'est une scène très drôle d'ailleurs où il met du Frank Sinatra et où l'homme se réveille. C'est un peu l'anti-Taxi Driver, ce film. Dans le même New York, il y a l'ange exterminateur et puis il y a l'ange salvateur. C'est lui.
Ouais, complètement. Et je me souviens très bien de cette scène où il met le disque. D'ailleurs, la scène de réanimation, elle est bluffante, elle est incroyable. Et bon, après, c'est Scorsese, hein, donc. Mais c'est moi, ça me fascine aussi. Ce que j'adore dans tous ces films-là, c'est combien, évidemment, je me compare pas une seule seconde ni à Scorsese, ni à Mankiewicz, ni aux autres, mais comment finalement, sur les mêmes thématiques, le même sujet, on peut faire des œuvres de cinéma si différentes.
Oui.
Pour raconter à peu près la même chose dans le fond, quoi, ce rapport aux soins, aux patients, à la maladie, à la mort. On raconte à peu près tous la même chose, et à écouter ces extraits, on se rend compte comment tous ces films n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est assez formidable. Hein.
Ce qui est formidable aussi, c'est que comme médecin, vous pouvez sauver tout le monde en étant cinéaste.
C'est la grande force. Moi, j'ai sauvé peu de gens en tant que médecin, mais en tant que scénariste et réalisateur, j'en
sais rien. C'est ce qui me semble bien.
Voilà, c'est ça qui est très christique. Donc ça s'appelle À tombeau ouvert, faut le rappeler, de Scorsese.
Oui.
Lui ne ressuscite pas, mais voudrait mettre sa fille au monde une seconde fois, façon de parler. C'est le thème de ce film, Les yeux sans visage, Georges Franju, 1960.
Puisque cette fille est morte à la suite de l'opération, j'ai pris un risque de plus. J'ai fait croire qu'il s'agissait de toi, puisque tout le monde te croit morte. Les gens n'approfondiront pas. Ils ne chercheront pas à savoir ce qui se passe ici, surtout. Christine, ton masque, pour une fois pour toutes, l'habitude de porter ce masque. Où l'as-tu caché?
L'habitude.
Mais non, je voulais dire, prends l'habitude de le porter pendant le temps qui nous sépare de la réussite. Ne pleure pas, ma chérie, je t'en supplie. Je réussirai, je te jure.
Je n'y crois plus.
Tu n'as aucune raison de douter de moi. Bon Dieu, on sait ce que je vaux, non? Tu auras un vrai visage, hein? Je te l'affirme.
Bravo Laurent d'avoir sélectionné cet extrait. Prends l'habitude de porter ton masque.
Qui nous dit de porter notre masque.
Non, on entend la musique, là, c'est un climat de mystère. Dès la scène d'ouverture, une femme conduit en pleine nuit, une deux chevaux, c'est Alida Valli, et se débarrasse d'un corps qui était à l'arrière du véhicule, dont on ne voit pas. On ne voit que l'imperméable et le chapeau. Bon, au-delà de la médecine, c'est quand même l'amour infini d'un père pour sa fille, Thomas Litty.
Il va essayer de reconstituer le visage de sa fille avec en prenant celui d'autres jeunes femmes. C'est un film immense, hein, de toute façon, fait partie des classiques du cinéma mondial, hein, tout simplement.
Oui.
Le grand film français avec Edith Scob, qui
est
au début de sa carrière.
Oui.
Ce film, tous ceux qui l'ont vu sont marqués par ce film, parce que à la fois il y a des thématiques qui nous parlent à tous, en effet l'amour d'un père pour sa fille, le rapport aussi à l'obsession l'obsession du médecin qui va y arriver, oui. Et puis la dimension fantastique, horrifique, tout se mélange dans ce film, la réalité, la science-fiction, et on est, je pense que c'est pour comprendre aussi ce que peut être l'obsession absolue du médecin qui veut absolument arriver à ses fins et qui est prêt au pire des crimes pour y arriver.
Oui.
Je crois que Franju, il a touché juste comme jamais, quoi. C'est pour ressentir cette part délirante du.
Il y a dans chaque médecin un savant
fou. Qui peut y avoir, oui, je pense, dans beaucoup de médecins. En tout cas, on est toujours titillé par cette envie de l'expérimentation qui peut amener au.
D'être le docteur Frankenstein.
Un petit peu. Ouais.
Les yeux sans visage. Pour nous remonter le moral, là, même si on est en pleine guerre dans le film. Boucherie, c'est la Corée dans le film, en fait, c'est le Vietnam. À l'hôpital militaire mobile avec des jeunes chirurgiens qui, malgré les victimes, le sang, les viscères ou les membres qu'on ampute, plaisantent, boivent, font l'amour, jouent au golf, c'est MASH de Robert Altman, Palme d'Or 1970, Elliot Gould, Donald Sutherland, Tom Skerritt extrait.
Il me faut des compresses, des tas de compresses, n'importe quoi, nom d'un chien.
Nox, des compresses.
Écarte encore un peu, je vois rien
du tout.
Il faut que je sorte ce truc, mais j'arrive pas à arrêter l'hémorragie. Qu'est-ce qui vous fait rire?
Rien.
Mais non, c'est vrai ce qu'on raconte sur vous que.
Et si on s'occupait un peu de Serein, s'il vous plaît, hein?
Ouais, ouais.
Il est
vous
mignon,
le sortez,
hein?
Donnez-moi des clampes.
Oui.
Des clampes, vite.
Oui.
Écarteur.
On y va.
Vous m'avez demandé, Capitaine Pierce?
Non, appelez-moi Hugues de Lynx. La cible.
Oh là là, j'y vois rien. C'est les chutes du Niagara, là. Venez attraper.
Oui.
Oh, il est en pièces détachées. Il va falloir l'enlever. Allez, allez-y. Encore des compresses, ouvrez-moi le paquet. Là.
Si. Et les compresses en rouleau?
Oh, mais je m'en fous, chérie. Il m'en faut des tonnes, c'est tout. Allez.
Donnez-moi des clamps.
Vous le voyez?
Quoi, non,
ça commence à être facile, là. On va y arriver.
Grattez-moi le nez. Le bout du nez.
Là?
Oui. Non, encore, un peu plus fort, s'il vous plaît.
Attention, attention. Tous les sous. Attention. Attention, tous les sous-officiers doivent se présenter à la visite prophylactique. Terminé.
C'est réjouissant, MASH. D'ailleurs, il a très très bien marché en France. Il avait fait à l'époque 3 600 000. D'ailleurs, l'ambiance des salles de garde, c'est à peu près pareil. C'est une façon d'exorciser quelque chose.
Oui, c'est pour. J'imagine. Après, c'est difficile à étudier, mais oui, c'est pour exorciser. D'ailleurs, ça se perd. Mais bon, il y a la salle de garde, mais il y a là, on est plus sur l'ambiance du bloc opératoire. Mais le bloc opératoire, moi, je l'ai vécu. Alors. Bon, les choses changent, peut-être tant mieux d'ailleurs, hein, mais oui, il y a toujours eu cet esprit carabin de blagues, de pas toujours de très bon goût, souvent sexiste d'ailleurs.
Ouais,
ça évolue
ça
peut-être
un peu.
Aussi dans le bon sens. La médecine se féminisant, ça y participe. Et tant mieux, mais il y a quand même toujours, et j'ai les femmes médecins aussi, ce besoin, à un moment donné, de prendre du recul, de rire de la situation, d'essayer d'oublier un petit peu la violence de ce qu'on est en train de vivre. Alors dans MASH, c'est poussé à l'extrême, mais moi, MASH, c'est un film qui m'inspire, même dans ce que j'essaye d'écrire, qui est à milieu de MASH. Mais souvent, je repense à MASH, je me dis, mais ma séquence, là, elle serait comment dans le film MASH? Et d'ailleurs, souvent, quand j'arrive à trouver des petits décalages, d'essayer de créer le rire, et j'essaie souvent dans mon travail de créer un peu le rire au milieu d'une scène de médecine, de soins, ça me vient souvent de MASH.
Et puis,
voilà,
c'est un gros pamphlet contre la guerre du Vietnam, bien sûr, à l'époque où elle se déroulait, en plus. C'est un très grand film MASH. Palme d'Or 70, une autre forme de pamphlet attaquant cette fois le traitement de la folie. Vaste sujet dans un film signé Milos Forman, Voltune et une coucou. Mac Murphy et Jack Nicholson tentent d'échapper à la prison en se faisant passer pour fou et va se révolter contre la dureté d'une infirmière et ses méthodes. Électrochoc justement, il en sort et fait semblant d'avoir été très malade de ça.
Ça vous la coupe, hein? Tant de demeurer de cingler, de minus à bas, hein? Un hurrah pour Murphy le bandeur qui refait surface et qui chargé à bloc! Vous en faites une gueule! Non mais regardez-vous! L'escouade des siphonnés, des givrés! Le bataillon des débiles mentaux en première ligne! Alors ça gaze, Miss Ratchett, content d'être de retour?
Nous sommes très contents de vous revoir, Randall.
Très touché.
Voulez-vous vous reposer aujourd'hui ou voulez-vous vous joindre au groupe?
Je serais tout à fait désireux de rejoindre le groupe. Avec joie. Je suis fier de rejoindre le groupe, Mildred.
Comment ça va, Mac?
À merveille, petit Billy. Absolument au poil. Ils m'ont filé 10 000 watts par jour. Tu sais, alors je pète le feu. La première fille que je vais sauter va s'allumer comme un flipper. Et je vais me taper de ses parties gratuites.
Vous êtes très amusant, très drôle, Randall.
Merci.
Mais à votre arrivée, nous parlions avec Jim. Il a un problème de médicaments et nous souhaiterions revenir là-dessus.
Alors là, ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire, j'allais vous en prier. Je suis doux comme un petit toutou.
Voilà, tu n'es coucou, le film aux 5 Oscars. Il y a eu beaucoup de films sur la folie, le traitement de la folie. Thomas Lutti, pourquoi celui-là? Parce qu'il mélange...
Celui-là, je pense parce qu'il y a déjà... Ouais, il me ramène à mon enfance parce que c'est des films qui passaient quand même à la télé quand moi j'étais. C'est un peu la première découverte de ce. C'est un cinéma. Je trouve que c'est la force du cinéma américain de cette époque-là, notamment fin des années 70-80, où ils arrivaient à faire des films. En tout cas, quand moi je les voyais, je me disais, ok, donc le cinéma, ça peut être quand même à la fois accessible au jeune homme de 13-14 ans que j'étais, 15 ans, et en même temps. Être un peu sérieux, c'est pas obligatoirement que les films de Louis de Funès, le cinéma, ça peut être aussi. Non, mais c'est ça.
Un regard sur la société.
Et en même temps très accessible. Et en même temps, quand même, Simulos Forman, c'est quand même pas n'importe qui aux manettes. Et c'est vrai que j'ai été nourri par ce film parce que c'est la Jack Nicholson, c'est des acteurs incroyables. En même temps, c'est sombre, c'est très violent, très dur. Pour toutes ces raisons-là, je crois que c'est un film qui a marqué beaucoup de jeunes gens de ma génération.
Et puis c'est un film très politique, parce que Forman lui-même fuyait la Tchécoslovaquie, donc c'est une révolte contre le pouvoir caché à l'intérieur de cette fiction.
Tout à fait. Ouais. Ça s'analyse très facilement quand on voit le film, on se rend compte comment c'est une métaphore, oui. Évidemment, de ce qu'il a lui vécu et de son exil. Mais. Ce que je me rends compte en écoutant tous ces extraits, et notamment Vol de Tunaï Coucou, c'est comment tous ces films. Alors, est-ce que c'est parce que c'est notre sélection, ou qu'il y a un biais, et que c'est la mienne, et que c'est un biais, ou alors, est-ce que réellement, finalement, quand on parle de santé, quand on parle de médecine, on raconte obligatoirement des choses importantes. Après, on fait des films plus ou moins réussis, mais on raconte des choses importantes qui vont bien au-delà de la médecine et de l'hôpital. Et c'est vrai qu'en ça m'est arrivé de dire cette phrase un petit peu pour sourire, mais de dire on reconnaît, je crois que c'est Camus qui avait dit on reconnaît l'état d'une société à l'état de ses prisons, et de dire on reconnaît l'état d'une société à l'état de son hôpital. Et finalement, je le sens à travers ces films, que tous, on vient de dire MASH, c'est une satire et c'est une critique de la guerre du Vietnam. Et tous ces films portent un fond politique très puissant, et c'était une des premières questions que vous m'aviez posées. Hippocrate, c'est un film politique. Je crois qu'à partir du moment où on parle de l'hôpital, on devient un peu politique.
Et d'ailleurs, on va finir avec ça, parce que là, c'est le cas d'un malade qui va devenir médecin. C'est incroyable, par la force des choses, la progression de sa maladie, le sida. C'est une histoire vraie, celle de Ron Woodruff, racontée dans ce film Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée en 2014, extrait.
Ron, je respecte vos connaissances de la maladie. Mais la place de ces gens est à l'hôpital.
Pourquoi? Tout ce qu'on leur refile, c'est l'AZT.
Parce que l'AZT aide à combattre le virus.
Mais on s'en contrefout du virus. Docteur Sachs, vous le savez, une fois qu'on a le virus, on est marié avec lui, l'AZT n'y change rien. Je parle, moi, de symptômes, je parle de survie. Je suis pas un scientifique, mais merde...
Tu l'acceptes pas, mais à t'entendre parler, on croirait que t'as eu le prix Nobel.
Les gens... peuvent vivre avec la maladie plus longtemps que ce qu'on leur annonce. D'accord, 96% des malades du sida aux États-Unis aujourd'hui vont mourir dans les 6 mois à venir.
Je connais les statistiques.
Alors servez-vous-en. Cessons de donner de la ZT à ceux qui ont perdu leur défense immunitaire, c'est toxique.
Si on en abuse comme vous l'avez fait et que vous en prenez sans surveillance médicale, oui, c'est toxique.
Ok, j'en ai abusé. Mais j'ai décroché, et regardez-moi. Je suis vivant, en pleine forme. Il y en a plein d'autres comme moi.
Voilà, Dallas Buyers Club, c'est la mairie des années 80, celle qui condamne les séropositifs à l'exclusion, Thomas Lutti.
Ouais, c'est l'histoire d'un séropositif qui va progressivement réussir à mettre en place un système pour distribuer de la trithérapie, en fait.
D'ailleurs, pour lui-même, à qui on donnait 30 jours de survie et qui va survivre 5 ans.
Voilà. Et qui va utiliser ses médicaments, la ZT notamment, dont on entend parler dans l'extrait. Et c'est vrai que c'est un film comme les Américains réussissent à faire. Quoi. Là, il se trouve que c'est un Canadien qui l'a fait, mais à Hollywood, avec des acteurs américains. Et pour, c'est-à-dire à la fois d'être dans le romanesque, dans le divertissement, inspiré d'une histoire vraie, et en même temps, on apprend plein de choses sur cette époque-là, sur la solitude de ces malades du SIDA des années 80,
sur ce macho qui va devenir un homme beaucoup plus ouvert à d'autres sexualités, d'autres
qui va complètement s'ouvrir et qui et cette Amérique assez fascinante, très réactionnaire. C'est un beau film, c'est vraiment moi je l'ai découvert assez récemment, mais c'est un film d'un seul coup pour aussi montrer que entre le soignant et le soigné, finalement, la frontière, elle est faible. On est tous un peu soignants et on est tous du côté du soigné un jour ou l'autre, de toute façon. Donc ça, Dallas Buyers Club est un beau film, un très beau film.
Vous restez avec nous, merci pour cette liste. Hein, Barberousse, La maladie de Saxe, On murmure dans la ville, À tombeau ouvert, Les yeux sans visage, Mash, Vol au tunnel de coucou, Dallas Buyers Club, sacrée liste.
Suivez la prescription du docteur Lilti.
Oui, et on se retrouve après Matt Berninger, One More Second.
Last time we were together, lately it feels like forever. And the way we talked last night, different kind of fight. Give me one more second to dry my eyes. Give me one more day to realize. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss. Give me one more year to get back on track. Give me one more life to win you back. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss it. Why can't you just tell me what you're doing here? Don't be cruel if you're leaving me. Just do it.
Certes, les salles sont fermées, Laurent, mais il y a plein d'idées pour plein d'écrans.
On va être très éclectique.
Et notamment cet hommage à Miyazaki.
Absolument, c'est un ouvrage.
Oui, c'est un ouvrage.
Chez Inis, qui s'appelle Hommage à Hayao Miyazaki. Miyazaki, un cœur à l'ouvrage. C'est écrit par Stéphanie Chaptal. C'est un très bel album, illustré avec beaucoup de soin. Et il y a une double approche. Film par film d'un côté, qui permet de redécouvrir la très belle et très riche filmographie de ce cinéaste d'exception, de cet animateur d'exception, si on peut dire. Et puis il y a également une approche qu'on va appeler thématique pour aller vite, avec des éclairages sur l'aviation c'est très important pour Miyazaki, et les religions, le féminisme aussi, et puis ses héritiers, sa postérité, ses influences, avec même un chapitre sur la France et Miyazaki. Bah oui, parce que il a beaucoup vu Paul Grimaud, il a beaucoup lu Saint-Exupéry, il adore Maurice Leblanc et Arsène Lupin. Voilà, donc toutes ces choses-là sont mises en avant. C'est un très bel hommage, comme son titre l'indique, à ce cinéaste majeur. C'est une très belle synthèse sur son œuvre qu'on n'arrête pas de d'aimer, de découvrir, qui permet de regarder des films avec ses enfants sans en avoir honte. Voilà.
un sacré film, Le Cave se rebiffe de Gilles Grangier en DVD restauré, Laurent.
Oui, absolument restauré, en Blu-ray même, très très belle édition chez Gaumont. Oui. Alors, à l'origine du Cave se rebiffe, il y a une trilogie, qui est la trilogie du Grisby, écrite par Albert Simonin, et qui donnera 3 films, s'il vous plaît, Touchez pas au Grisby, Le Cave se rebiffe donc, et Les Tontons Flingueurs, soit un film très noir et 2 vrais faux polars de véritables bras cassés. C'est bien parce que les textes sont réédités en ce moment même par la manufacture des livres, je vous incite à lire du Albert Simonin, ça vaut le coup. Alors Le Cave se rebiffe, bon, c'est même pas la peine de raconter l'histoire.
Mais si, on peut.
Non mais elle n'a guère d'intérêt en fait, elle a guère d'intérêt, tout est dans le titre, Le Cave se rebiffe, voilà, c'est l'histoire d'un cave qui se rebiffe, et parce qu'on lui demande de faire de la fausse monnaie, il va la faire, mais il va entuber ceux qu'il pensait le dominer. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire, on s'en fiche un peu, mais seulement, il y a Gabin, il y a Biro, il y a Blier, il y a Rosé, il y a Martine Carole, il y a Ginette Leclerc, et au dialogue, s'il vous plaît. Biro, mais bien sûr. Et au dialogue, s'il vous plaît, il y a Michel Audiard. Et voilà ce que ça donne très très rapidement au début du film. C'est Blier qui déclare « Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, Monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manchette en simili et ses pompes italiennes fabriquées à Grenoble, c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question de présentation, parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. » Voilà. Est-ce que vous voulez, quand un film s'ouvre quasiment par ce dialogue, et c'est tout comme ça, c'est plus fort à mon avis que Les Tontons Flingueurs, Le Cave se rebiffe, donc faut vraiment le redécouvrir grâce à ce Blu-ray édité par Gaumont. Précipitez-vous, il y a un joli documentaire sur le film en bonus.
De l'autre côté du spectre, beaucoup moins drôle, un film d'Alain René, Muriel ou Le Temps d'un Retour, édité par Potemkin.
Oui, très très belle édition de Potemkin, en Blu-ray là aussi. C'est produit par Anatole Demant, ce film, et avec un scénario et des dialogues écrits par Jean Cayrol. C'est, à mon yeux en tous les cas, un des chefs-d'œuvre d'Alain René, parce que il le mène de main de maître, 3 éléments dans le film qui sont a priori contradictoires et absolument contrastés. Il y a le prosaïsme de la vie quotidienne des personnages, il y a la violence de la dénonciation de la torture en Algérie, et il y a un parti pris esthétique dingue qui est presque cubiste, avec un montage elliptique mais sorti d'on ne sait où, brillantissime, une musique dodécaphonique. Donc tout ça fait un ensemble incroyablement à la fois différent et cohérent. C'est absolument miraculeux. Et au milieu coule non pas une rivière, mais domine Delphine Seyrig. C'est un des plus beaux rôles de l'actrice, vraiment. Et il y a en plus dans cette belle édition de Potemkin des bonus qui valent vraiment le coup, avec notamment des éclairages sur la guerre d'Algérie au cinéma et un entretien avec Philippe Faucon qui sait de quoi il parle en la matière.
Et un petit peu vite, le festival des Trois Continents qui se tient à Nantes en version confinée.
Et bien sûr, Afrique, Amérique Latine, Asie, ce festival chaque année est une belle occasion de redécouvrir ces cinématographies-là. C'est jusqu'au 29 novembre, c'est à Nantes, et il y a beaucoup de choses gratuites en ligne, donc précipitez-vous sur le site concerné par le Festival des Trois Continents.
Premier cadeau petit en attendant le grand, c'est voilà. C'est la nouvelle formule de Sauf Film, Thomas Lilti, avec comme produit d'appel Clounet en couverture. L'interview, pas mal. Il y a un truc que j'aime bien, il dit l'argent de Wattels, on apprend que l'argent de Wattels, en fait, lui a servi à monter une fondation qui poursuit les criminels de guerre, quand même. Il y a un dossier très intéressant sur « Et si le cinéma se passait enfin ouvert ?» Un très gros dossier. Et pareil pour Jack Nicholson. Voilà, c'est la nouvelle formule de Saw Film.
Voilà, et puis alors un autre cadeau de l'excellent éditeur de DVD Blu-ray qui est Carlotta. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Thomas Lilti, Miloš Forman, c'est pas n'importe qui aux manettes. Ben oui, voilà, Miloš Forman, quatre œuvres de jeunesse.
Miloš Forman.
La période tchèque, on va dire. Ouais. L'Addition, L'As de pique, Les Amours d'une blonde, Au feu les pompiers.
On a le temps. Ouais.
Beaucoup de bonus, notamment cornaqués par Luc Lagier. Les deux derniers sont Les Amours d'une blonde et Au feu les pompiers sont certainement les plus intéressant parce qu'il manie le burlesque avec une maestria sidérante et il dit des choses là aussi sur cette société tchèque qu'il connaît si bien. Et vraiment, c'est peut-être une période qu'on connaît moins bien que les grands films.
On l'aurait dû à Amadeus souvent.
Amadeus. Eh ben, pas du tout. Il a commencé comme ça et franchement, ce beau coffret de Carlotta nous permet de redécouvrir cette première période de Miloš Forman.
Qu'est-ce que vous aimez chez lui particulièrement, chez Miloš
Forman? Justement, ces films-là de la première période, les films tchèques avant son arrivée aux États-Unis que j'ai vu au MacMahon à l'époque, bien avant l'arrivée des Blu-ray justement, et qui sont des films où il forme de nouvelles vagues du cinéma tchèque, donc c'était Moi, c'était vraiment l'époque où j'étais fasciné par voilà cette prise de vue dans le réel.
Et souvent des comédiens amateurs.
Voilà, j'arrivais à m'identifier à ces films finalement et à ces personnages.
C'est parce que vous pressentiez l'épidémie de Covid que vous tournez pour la télé maintenant sur un petit écran.
J'ai eu de l'instinct d'une certaine manière, mais
quelle horreur.
Non, j'avais pas évidemment comme personne.
Alors vous avez fait la première série Hippocrate. Là vous avez tourné la deuxième.
La deuxième est quasiment terminée d'être tournée, donc elle devrait être finie au printemps.
Oui.
Et pour le mois de mars, j'espère qu'elle sera en diffusion au mois de mars. Et nous, on a vécu au milieu du tournage, puisqu'on avait commencé en janvier. Donc c'est un tournage qui a duré presque un an, puisqu'on a été interrompu par le premier confinement, puis oui. Un peu par
c'est
le deuxième.
C'est dur de tourner sous Covid.
Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. C'est plus dur que déjà. C'est dur de tourner tout court.
Certes.
Surtout là, c'est 125 jours de tournage, donc c'est déjà immense.
Beaucoup,
c'est un marathon
c'est
que je réalise tout, avec toute l'équipe me suit du début jusqu'à la fin. Mais c'est vrai qu'avec les masques, avec les mesures de barrières sanitaires, etc., obligatoirement, ça rend tout plus dur, comme pour tout le monde.
Vous avez donné du matériel, même de la série aux
hôpitaux. On a prêté tout notre matériel, parce qu'on s'est rendu compte que, sous certains aspects, on était presque plus riche en matériel que le vrai hôpital dans lequel je tourne. Je suis moi-même allé
sur une société qui se voit à l'état de ses hôpitaux. Hein.
Ouais, exactement. Ouais, donc on a, ouais. Moi, j'avais mon hôpital de fiction et puis l'hôpital réel. On travaille côte à côte. Et puis au moment où l'hôpital de fiction s'est arrêté à cause du confinement et que l'hôpital réel s'est mis à être débordé, on a filé notre matériel. Moi, je suis retourné un peu à l'hôpital aidé au mois de mars, au mois d'avril. Et puis voilà, c'est vrai que ça nous a beaucoup questionnés, mais l'équipe autour de moi, les comédiens, d'un seul coup se sont sortis, je crois, comme jamais concernés par ce qu'on était en train de raconter. C'est-à-dire, on est en train de parler, nous, de l'hôpital et de ses défaillances, et en même temps, le confinement nous rattrapait, la crise sanitaire nous dépassait.
Si tu étais opportuniste d'intégrer la Covid dans le scénario?
Ça aurait été opportuniste. Surtout, c'est pas tellement un problème d'opportunisme, c'est surtout un... C'est comment faire, quoi. C'est-à-dire, c'est à la fois c'est compliqué de faire comme si ça n'existait pas, parce qu'on est en train de parler de l'institution hospitalière qui s'effondre. Moi, c'est ça que je suis en train de raconter dans cette saison 2. Et en même temps, comment faire pour pas parler du Covid mais on n'a pas le recul.
Ouais.
En parler pour dire quoi? On sait, surtout au mois de mars, on ne sait pas qu'il va y avoir une deuxième vague, on ne sait pas s'il va y en avoir une troisième aujourd'hui. On ne sait pas où on sera dans 6 mois, dans 1 an. Très compliqué de parler du Covid.
Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.
Merci, moi qui vous remercie.
Vraiment, merci Thomas Lilti. Et on vous confie les clés du générique. Au revoir.
Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation de l'émission. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Thomas Lilti, j'y étais.